Le 27 janvier prochain sera commémoré le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau à l'ouest de Cracovie en Pologne. Une date décrétée en 2005, journée internationale de commémoration en mémoire des 6 millions de juifs victimes des exactions nazies. 75 ans, ce n'était pas jadis, ce n'était pas hier non plus, c'était pour ainsi dire il y a quelques heures finalement, où des hommes devenus fous entreprirent d'anéantir un peuple. Certes, moins pire que l'oubli, il y a la méconnaissance. Selon une étude établie par Shen Consulting et publiée mercredi dernier, le 22 janvier 2020, un Français sur six déclare n'avoir jamais entendu parler de la Shoah. On découvre également, dans ce même sondage, qu'une majorité de Français, 57%, ignore le nombre de Juifs tués. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre à nouveau en ligne un reportage réalisé l'an dernier auprès de 45 élèves de première du lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan, qui, en mars 2018, avaient embarqué dans un autobus pour un circuit de 10 jours à travers l'Europe de l'Est sur les chemins de la mémoire. De Berlin à Prague, en passant par Nuremberg et donc le camp d'Auschwitz. Parmi eux, Faustine Ferrer, 16 ans à l'époque. Elle était élève en première L. Nous lui avions confié un micro pour recueillir sur place les témoignages de ses camarades, puis mêler nos plumes à son retour. C'est donc le récit de ce séjour dans l'histoire que vous allez pouvoir retrouver maintenant, éprouvant, émouvant, mais fondamental à l'heure où des relents nauséabonds émanent à nouveau des égouts de l'histoire, y compris dans notre propre pays. Ce reportage est dédié aussi à toutes les victimes des guerres et de la barbarie humaine.
MDM.
MDM.
Tout un monde.
Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja...
Chaque pas que vous faites, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui est tombé sous les coups, évanoui, ou mort de froid, ou mort de faim, ou mort de soif, ou sous les coups. La mort était toujours à Birkenau sur nos têtes. Vous ne pouviez pas dire tout à l'heure, dans une heure, parce que vous pouviez mourir sous le coup des capots. Et les capots, c'est celles qui nous surveillaient au travail. Les blokovas, celles qui nous surveillaient dans les baraques. Elles avaient le droit de nous tuer. Elles auraient presque été décorées, même si elles le faisaient. Hitler voulait la mort de tous les Juifs. Et quand il nous a fait rentrer dans le camp, quelques-unes, c'était pas par gentillesse, c'était parce qu'il avait besoin de main-d'œuvre. Donc, le tri, la sélection, on va garder les celles qui paraissent capables de travailler et les autres, on les tue. Vous pouviez mourir de votre propre mort quand vous étiez dans le camp. La maladie, la faim, la soif. Mais vous aviez aussi cette sélection. Vous avez des boutons, vous avez des plaies, vous êtes trop maigre. Tout ça, c'était des causes valables pour vous envoyer à la chambre à gaz. Il voulait laisser vivants que des gens qui étaient capables de travailler.
Ginette Kolinka, rescapée du camp d'Auschwitz. Ginette Kolinka avait 19 ans, presque notre âge, quand le 13 mars 1944, elle est arrêtée, sur dénonciation, à Avignon, avec son père, son petit frère et son neveu. Avant que tous les trois ne soient déportés au père, son petit frère, elle sera la seule de sa famille, rescapée de là où périrent près d'un million de Juifs du camp d'Auschwitz. Quelques semaines avant notre départ vers l'Est, cette jeune femme de 94 ans est venue témoigner dans notre lycée, pour nous raconter, durant près de 3 heures, sans la moindre pause, tout, de son enfance à son arrestation, l'interminable voyage en train, l'arrivée au camp, les corps trop fatigués immédiatement transportés par les nazis un peu plus loin, les brimades, les coups portés, le travail dans le froid, affamé, vêtu de haillons. Ce que le monde n'a pas vu ou voulu voir à l'époque était face à nous. Ce voyage, Éric Fricot, professeur de SES, l'effectue depuis 15 ans avec celles et ceux qui nous ont précédés sur les bancs de Duruy.
On a commencé en 2002-2003. Moi, j'en avais fait un petit peu avant dans les Deux-Sèvres et voilà, régulièrement depuis 2003, entre Auschwitz, qu'est-ce qu'on a fait ? Auschwitz, Dachau, Struthof en Alsace, Mauthausen, on a un petit peu alterné entre résistance et Shoah et puis ça fait un petit moment là que On est, entre guillemets, spécialisé sur ces thématiques-là.
Les motivations premières pour emmener les élèves là-bas?
Ben, il y a d'abord le programme d'histoire de première des terminales, c'est une thématique au bac, et puis c'est une thématique, je vais dire, à la fois ancienne, historique et contemporaine. On a un retour de l'antisémitisme, on le sait, en France, il y a des humoristes qui se sont spécialisés sur ce créneau, il y a un public aussi pour suivre ces gens-là. Il y a l'antisémitisme dans les quartiers, il y a le problème d'Israël avec la Palestine, donc tout ça, ça fait un ferment un peu explosif, et c'est bien de repositionner un petit peu tout ça dans le passé, dans l'histoire, et d'avoir une perspective par rapport à tout ça.
Si les voyages forment la jeunesse, celui-ci nous créera une conscience. Des jours à l'étranger, en bus et un bon professeur d'économie, Éric Fricot a sorti la calculette, additionnant les frais divers, trajets, visites, gîtes et couverts. Total, 35 000 euros. En dépit du soutien des partenaires institutionnels, nous avons compris la nécessité de trouver des ressources pour boucler notre budget. D'où l'idée, incertaine, de proposer une collecte sur un site de cagnotte solidaire. Le résultat, vous vous souvenez ? Il y a quelques instants, je vous parlais d'anciens élèves.
J'ai un élève de 2005 qui a envoyé 200 euros cette nuit. Il est à Shanghai et il a entendu dire qu'on avait besoin d'argent. Donc il y a des gens que ça a marqué, qui ont envie de se mobiliser, de soutenir le projet et de le pérenniser.
Lycée Victor Duruy, J-2. Les derniers préparatifs avant de partir sur les chemins de la mémoire. Notre établissement fête ce matin les 15 ans de ce voyage sur les routes de la Shoah. Avec la venue des représentants de l'éducation nationale et de l'État, dont le préfet des Landes de l'époque. Manque à l'appel une personnalité, et non des moindres, la secrétaire d'État aux armées, Geneviève Darrieussecq. En raison d'un agenda surchargé, l'ancien maire de Mont-de-Marsan a dû renoncer à sa visite, mais a tenu à nous livrer ces quelques mots.
Oui, parce que tout ça est très important. Alors, ce ne sont pas des visites symboliques. Je travaille justement en collaboration étroite avec Jean-Michel Blanquer pour développer tout ce travail autour de la mémoire dans les établissements scolaires, voire à l'extérieur des établissements scolaires, mais là où il y a la jeunesse. Tout ça doit passer par la jeunesse. Et donc, nous faisons dans ce sens un travail important. Alors, les jeunes de Duruy, il y a longtemps qu'ils vont à Auschwitz, grâce à des professeurs qui sont très motivés et formidablement motivés. Nos objectifs, mon objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de professeurs motivés et qu'il y ait de plus en plus de professeurs sensibilisés à ces sujets, afin que l'on puisse avoir un travail dans les établissements scolaires qui soit, qui touche beaucoup plus de jeunes.
Parmi nous, justement, certains pour lesquels ce voyage revêt forcément une importance particulière, car cette histoire est la leur, elle coule dans leurs veines. C'est le cas de Ambre, 16 ans, en première ES, dont la grand-mère a été sauvée des griffes des soldats allemands.
Elle a été cachée, elle a été envoyée à la campagne avec ses frères et sœurs et sa mère, au village des Justes à Chambon-sur-Lignon. Elle et ses frères et sœurs ne savaient pas pourquoi ils allaient à la campagne. Et donc c'est aussi très tard qu'elle a appris qu'elle était juive. Du coup, en fait, dans sa tête, ça a fait vraiment... Enfin, c'était une fuite, en fait. C'est vraiment tout ce que je sais, parce qu'elle n'en a même pas beaucoup parlé à ma mère.
Ouais.
Je connais juste le nom de mon arrière-grand-mère, donc Paulette Wolf. Alors, je suis très excitée, parce qu'en fait, j'ai toujours été fascinée par tout ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Fascinée en même temps, horrifiée. Les êtres humains pouvaient faire ça, c'est quand même assez incroyable à concevoir. Et je sais que ça va être quelque chose d'assez fort. Et je vais partager ça avec ma mère quand même, parce que elle, ça l'a touché énormément aussi. Donc ça va être une expérience assez folle, on va dire.
Échapper à la déportation, une chance que n'aura donc pas eu Ginette Kolinka. Encore moins son père et son petit frère. Les camps de la mort, leur arrivée à Auschwitz, elle aura refusé longtemps d'en parler, hantée par la culpabilité.
Jamais j'aurais cru que j'en parlerais. Parce que pour moi, j'avais subi quelque chose de terrible. J'avais la chance d'en revenir, mais tous les miens sont restés là-bas. C'est mon père et mon petit frère. Parce que malheureusement, et ça c'est un très très grand remords qui est tout le temps chez moi, c'est que c'est moi qui leur ai dit de monter sur les camions, parce que ces nazis nous mentaient toujours et que j'ai toujours cru en ce qu'ils nous disaient. Vous prenez les camions, ça sera moins fatigant que d'aller à pied. Et moi, j'ai dit à papa et à mon petit frère, profitez-en, montez à pied. Et oui. Ils m'ont écouté.
On ne sort pas indemne d'une rencontre avec Ginette Kolinka. Sa voix, à la fois lucide et chagrine. Ses yeux, brillants, qui ne clignent presque jamais. Comme si l'horreur les avait figés. Nous ont tous bouleversés. Comme pour Paul ou encore Zoé.
J'ai trouvé cette intervention très enrichissante, ça m'a appris beaucoup de choses. C'était très émouvant à la fois parce qu'elle a vécu des choses pas faciles. Et Elle a su bien mettre les mots sur ce qu'elle nous a expliqué. C'est une partie de l'histoire qui me passionne plus que les autres. J'aimerais bien découvrir les camps de concentration, voir comment c'était.
Ça m'a beaucoup ému parce que c'est une histoire quand même qui est plutôt incroyable et qui sort un petit peu du commun. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché. Ce qu'elle a vécu quand même, ce sont des moments très forts, de se séparer de sa famille, d'avoir des membres de sa famille qui ont été tués, d'être déporté, de ne pas manger, des conditions sanitaires telles qu'elle a vécues. Moi, je trouve que ça se rapproche un petit peu avec ce qu'a pu vivre donc, ma grand-mère, car au moment où elle a fui la guerre, quand la guerre a éclaté, elle a traversé en fait un lac à la nage en hiver, sauf qu'elle ne savait pas nager, mais c'était son seul moyen pour qu'elle puisse vivre.
La grand-mère de Paul, qui refusa d'adhérer à l'idéologie nazie pour s'enfuir. Elle connaîtra toutefois les représailles, mais pas celles auxquelles elle pouvait s'attendre.
Quand les Russes ont libéré Berlin, ma grand-mère s'est faite violer donc, par des soldats russes, par 4 soldats russes. Et ma grand-mère, en fait, déjà elle n'aimait pas la guerre, et en plus elle n'aimait pas l'idée des nazis, en fait. Pour elle, c'était tout le monde est pareil, et tout le monde doit vivre libre et égaux en droit. Quand mon père ou quand son mari lui posait des questions, elle restait muette. Elle ne voulait jamais reparler. Elle n'a jamais revoulu repartir en Autriche ou en Pologne. Elle n'a jamais revoulu pour ne pas avoir ces images en fait en tête. Et ma grand-mère a perdu son cousin à la guerre, qui combattait donc pour les nazis. À moi, elle m'a beaucoup parlé, mais pas assez. Mais pas assez, parce que j'aurais pu apprendre beaucoup, beaucoup plus de choses, mais elle n'a jamais voulu en parler. Ça l'a tuée intérieurement, jusqu'à ce qu'elle décède. Ça l'a hantée. Moi, je pense que ça va être très, très émouvant, ça va être riche en émotions, ça va pouvoir aussi m'apprendre différentes choses, voir aussi et apprendre surtout. Et je pense que ça va me faire un petit quelque chose, parce que c'est quand même notre histoire, nous les Français, que ça soit français, juif, que ça soit allemand ou autre, ou tout le monde entier, on est tous concernés par les guerres. Et malheureusement, c'est encore du sujet d'actualité. Et il faut apprendre pour éviter que ça recommence et qu'il y ait du racisme aussi. Le monde devrait être contre ça, en fait. On est tous pareils et puis on devrait tous avancer main dans la main et pas les armes à la main.
Samedi 24 mars, 5h30, c'est l'heure du départ. 1700 km plus loin, c'est l'arrivée à Berlin. La ville qui, en un siècle, aura connu tant de vies et de morts aussi. Nous sommes cueillis déjà par les vestiges de la guerre froide, les derniers pans du mur séparant les deux Allemagnes, après la chute du nazisme. Et puis, très vite, nos premières visites nous ramènent quelques années en arrière, comme celle du musée de la topographie La Terreur, dans les allées desquelles nous errerons, devant les images statufiant l'innommable, les sourires des officiers et soldats nazis, devant tous ces visages anonymes, émaciés, en cours sursis. Parmi eux, nous chercherons en vain celui d'une certaine Simone Jacob, 16 ans, grâce à qui Ginette Kolinka survivra. L'histoire retiendra plus tard son nom, un an après la fin de la guerre. Simone Jacob deviendra à l'état civil Simone Veil.
Simone, j'étais avec elle, on fait des corvées, il pleut, la capot, habituellement sous la pluie, on travaille quand même. Hein. Certains miradors étaient à claire-voie, puis d'autres étaient comme des petites baraques. Donc elle nous donne la permission d'aller nous mettre à l'abri. On s'est toutes les deux, je me revois encore, on était, vous savez, en chien de fusil, toutes les deux emboîtées l'une contre l'autre pour se réchauffer, et puis on s'est endormi. Et comme la pluie avait cessé un petit peu de force, eh bien, la capot, naturellement, nous fait sortir. Elle est tombée en extase devant Simone. Et donc, t'es trop belle pour être comme ci, t'es trop belle pour être comme ça. Et quand cette capot lui a amené des robes, eh bien, elle m'en a donné une. Et pour moi, je crois que ça m'a sauvée parce que je perdais le moral. J'étais plus moi, plus de cheveux, rasée. J'ai emmené mon père et mon frère à la mort. Mon neveu est mort aussi parce qu'on est dans des endroits où tout est sale. On a découvert plein de choses qu'on ne pensait même pas que ça pouvait exister. Peut-être que je commençais à perdre le moral. Et grâce à cette robe, je me suis d'un seul coup redevenue une belle jeune fille.
À Berlin, nous visiterons le musée juif et l'installation Schalchett, autrement appelée les feuilles mortes. Aucun film, aucune photo, ni aucun commentaire ne peuvent retranscrire à la fois le malaise et la douleur que nous ressentirons en marchant sur cette œuvre d'un artiste israélien. Ces 10 000 visages découpés dans l'acier et l'écho froid de nos pas. Nous nous rendrons au mémorial de la Shoah, entre la porte de Brandebourg et la poste d'Amurplatz. un champ de 19 000 mètres carrés, couvert de 2711 stèles de béton gris, disposées en maillage. 19 000 mètres carrés, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de presque 3 terrains de foot. Je sais, la comparaison est absurde. Moins que les raisons qui ont amené à la construction de ce lieu de souvenirs. 2711 mausolées de pierre posées là, de forme rectangulaire, mais tous de tailles différentes. Comme une référence aux différents âges des victimes de l'Holocauste. Des bébés à leurs grands-parents et plus. Pourquoi 2711 ? Je ne sais pas. On a dû nous le dire. Mais je crois que je n'écoutais pas. Ou que je n'écoutais plus, assourdi par le silence. Le sentiment de perdre tout repère, ou la raison. Ce sentiment qui a dû habiter quelques 75 ans plus tôt 6 millions de personnes, à qui l'on aura enlevé l'humanité avant la vie. L'absurdité aussi. Qu'en quelques mètres, avant de franchir le portail du camp d'Auschwitz et son slogan odieux, Arbeit macht frei, le travail rend libre, nous découvrirons des publicités d'enseignes de restauration rapide encerclant le camp. Ça se passe comme ça chez l'un ou so good chez l'autre. Les pires représentations aujourd'hui de la malbouffe. Là où, à quelques mètres, pour autant de décennies, des femmes, hommes et enfants sont morts de faim. Parmi nous, Ambre ne sera pas la moins choquée.
Alors oui, totalement. Ben, forcément que la ville, elle a évolué autour. Et ben, c'est devenu presque un lieu touristique, en fait. Donc c'est triste d'en parler comme ça, en fait. Mais oui, forcément, voilà, il y avait des restaurants, beaucoup de gens qui viennent. C'est normal. Mais bon, c'est quand même dur, même quand on arrive, en fait. On dirait que quand même l'environnement autour a été impacté par ça, en fait. C'est triste autour. C'est dur.
Alors, nous franchirons les portes. Alors, nous verrons l'intelligence humaine mise au service de l'horreur, l'infamie de la logistique, l'extermination scientifiquement programmée par une idéologie, son guide et ses serviteurs zélés. À Auschwitz, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Même les Juifs. Nous verrons ces piles de chaussures et de vêtements entassés. Les paires de lunettes empilées, cette immense fourrure constituée de cheveux tendus dans des pièces grandes comme des salles de classe. C'est ce que les soldats de l'armée rouge découvrirent le 27 janvier 1945 en pénétrant dans le camp. L'abomination en chiffres ? Les cheveux ? 7 tonnes. Des vêtements féminins ? 836 725. Des vêtements masculins ? 348 820. Des chaussures ? 43 525 paires. Nous nous arrêterons aussi devant des montagnes de boîtes de ce pesticide, le zyklon B. Et puis, au bout de la chaîne, les douches où il n'y avait jamais d'eau. Et puis les fours crématoires, dans lesquels, les jours de pénurie de gaz, des enfants furent jetés vivants. Toi qui doutes ou contestes, viens me dire que tout cela n'a jamais existé. La dernière marche vers l'enfer. C'est là que me reviendra la voix de Ginette Kolinka, qui m'avait confié, lors de sa venue au lycée, « Quand vous ferez un pas à Auschwitz, vous marcherez sur un mort. À Birkenau, c'est au moins 10. Birkenau, camp numéro 2. Les saisons sont rudes au cœur de la Pologne. Plus 30 degrés l'été, à moins 30 l'hiver. La neige qui devient boue, la boue qui devient sang. Le chemin est long jusqu'au baraquement et ses lits jumeaux s'entasseraient des centaines de déportés. Bon nombre atteints de diarrhée ou de dysenterie, tordus de douleur par la maladie. Certains n'avaient même pas le temps de descendre de leur lit, surtout ceux qui étaient au-dessus, nous avait raconté la guide. On vous laisse imaginer la suite. Paul, Logan ou Jeanne n'oublieront pas.
Pour moi, Auschwitz, ça a été quelque chose de fort, niveau émotion, voire surtout les cheveux, les objets des Juifs qui ont été à Auschwitz. Et aussi la chambre à gaz qui a été détruite. Je m'attendais un peu à voir ça, mais me dire que des personnes ont organisé ça pour tuer des millions de personnes, c'est difficile à croire. Même quand on y est, on a quand même du mal à y croire.
C'est une expérience qu'on vit difficilement quand même. Surtout le passage de la fameuse porte où il y a marqué le travailleur en libre, qui est, je pense, c'est d'une ironie totale. Et quand on passe ça, on se rend compte que c'était terrible. Et cette expérience, on la vit difficilement. Et surtout de voir les baraquements, les gens entassés. On est asphyxié dans cet environnement où on voit les barbelés, les murs, etc. Et le pire, c'est même Birkenau où on voit les restes, les vestiges des fours crématoires et on se dit qu'à cet endroit-là, il y a un peu plus de 70 ans, des milliers de gens sont passés ici pour mourir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les fours crématoires, les vestiges où on voit les anciennes douches, où oui, ils marquaient ils marquaient morgue carrément sur leur plan, ils s'en fichaient totalement et on leur faisait croire que c'était des douches et on voit ça et on se dit que là, des milliers de gens sont morts et nous on passe à côté comme ça. Les fours crématoires, là, c'est vraiment l'endroit final, la mort, et c'est là que tout s'est fini et qu'on se dit c'est quand même d'une horreur absolue.
Les chaussures, les tonnes de chaussures, ouais, c'est, ouais, quand je suis rentrée dans la salle pour, enfin, c'était les chaussures, je me suis dit putain, mais c'est... Ces chaussures ont vraiment servi.
Ouais, il y avait aussi les photos aussi. Il y avait un grand couloir avec, je sais pas, il devait y avoir bien 10 000, peut-être pas 10 000, mais il y avait bien 5 000 photos de personnes. Et j'ai pas retenu les visages. Mais tu te dis, putain, ces personnes, elles ont existé. Tu les as pas connues, mais elles ont existé. C'est des traces de personnes, c'est des essences de personnes. Il y a des gens qui ont vraiment existé, qui ont vraiment fait ça. Et il y a vraiment des gens qui ont torturé d'autres gens en se disant, putain, mais l'humanité, c'est de la grosse merde. La philosophie de vie, le fait qu'il y ait des gens qui soient racistes, enfin, tous les côtés mauvais des humains, tu vois, le fait d'aller à Auschwitz, ça m'a encore plus renforcé le fait que je pense que l'humanité est mauvaise. Les gens, ils sont heureux entre eux, mais on sera jamais tous heureux ensemble.
Deux autres d'entre nous, au destin croisé, n'oublieront pas la visite du camp d'Auschwitz. Un an après, Ambre et Paul restent toujours profondément marqués.
Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'allais voir. Vraiment, je ne pensais pas que je serais aussi bouleversée, parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'émeut facilement. Mais ouais, les souvenirs, ils sont quand même encore très, très vifs. Mais après, c'était vraiment quelque chose, une expérience très intéressante et très enrichissante. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté. Mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi.
C'est-à-dire ?
Ça a été... je ne sais même pas si c'est par rapport à mon histoire personnelle que ça m'a ému autant, mais c'était vraiment quelque chose d'affreux. Et vraiment, voilà, quand on en parlait en cours, moi, je pensais pas que ça serait ça, quoi. Et quand on se retrouve vraiment face au fait accompli, c'est terrible. C'est vraiment terrible.
Tant qu'on ne voit pas de ses propres yeux, tant qu'on n'est pas dedans, quand on n'est pas à l'intérieur de ces baraques, on ne peut pas se rendre compte et imaginer, en fait, l'atrocité. On prend une claque dans la gueule, hein, clairement. Ouais. Ça nous renvoie à qui on est, d'où on vient, directement.
Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est, je sais pas si tu t'en souviens, Paul, dans les pièces, dans certaines pièces, ils ont fait comme des ombres. Et en fait, c'est les ombres vraiment de plein de personnes. Il y a des enfants, il y a des files d'enfants avec des adultes. Et on pense que c'est sûrement une classe, par exemple, avec un enseignant ou quoi que ce soit. Et ils ont mis ça vraiment sur tous les murs. Et quand on marche, on a l'impression qu'ils nous suivent, qu'ils nous regardent et qu'ils nous accompagnent dans ça. Et c'est très, très dur quand même, quand on y pense.
On a l'impression qu'il y a un poids dans l'atmosphère qui est énorme.
Et c'est vraiment voir ne serait-ce que les ruines des chambres à gaz.
Qu'une personne qui peut imaginer et mettre en place, en fait, autant de structures et avoir autant de matériel pour pouvoir tuer, mutiler, torturer des personnes. En fait, on se dit que c'est pas humain. C'est pas un humain qui a pu faire ça.
Comme structure, vraiment, c'est monumental. Hein.
C'est une usine de mort.
Exactement. Voilà, c'est un abattoir, mais en mille fois plus grand.
Quand on regarde, on est monté sur un mirador. Quand on regarde, en fait, on a l'impression qu'on n'en voit jamais la fin. Bah oui. On se dit, dire que là-dedans, à l'intérieur, il y avait des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, que ce soit des juifs, des tziganes, des handicapés, qui ont subi toutes ces atrocités. On se dit, c'est affreux quand on voit que les personnes n'avaient que 5 minutes pour aller aux toilettes et qu'il n'y avait que 70 places alors qu'il y avait 5 000 personnes. C'était affreux.
On ne vous a pas choisi par hasard. Toi, Ambre, au regard de la confession religieuse dans ta famille, toi, avec, on le rappelle, une grand-mère autrichienne, mais qui a choisi de dire non au nazisme, est-ce que vous êtes posé la question de savoir si ta grand-mère, elle n'avait pas eu un juste pour la planquer? Toi, peut-être, la tienne de grand-mère, elle considérait comme une traître. Vous en avez pris conscience que vous êtes là, finalement, grâce à la chance, grâce à l'amour des autres? Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous avez eu conscience de ça, peut-être encore plus là-bas?
Bah, j'y ai pensé, surtout quand j'ai appris que ma grand-mère, qui était très jeune à cette époque-là, elle a justement, avec sa famille, été cachée. Quand j'en ai parlé à ma mère, donc elle m'a justement dit que c'était grâce à ces gens-là. Et qu'on prenait pas vraiment conscience, je pense, de l'impact que ces personnes ont eu. Ouais, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça vachement important quand même, parce que on peut pas les remercier.
Ouais.
Enfin, parce que techniquement, moi, je voudrais bien les remercier parce que
sans eux, j'en ai des petits enfants aussi.
Je serais peut-être pas là.
Ouais.
Et ma mère ne serait pas là. Enfin voilà, c'est quand même assez, c'est hyper important, quoi. Et ouais, je pense qu'on pense pas forcément à ça. Et vraiment, c'est très important.
De retour à Cracovie, nous poursuivrons le lendemain notre périple avec la visite d'un autre lieu chargé d'histoire, immortalisé au cinéma par Steven Spielberg, l'usine d'Oskar Schindler. Le film nous avait d'ailleurs été projeté dans le bus durant nos longs trajets d'une étape à l'autre. Aujourd'hui, le bâtiment abrite un musée retraçant la vie de cet industriel qui sauva celle de 1200 de ses ouvriers juifs. Nous assisterons à d'autres projections, à des reconstitutions également. Nous découvrirons aussi, épouvantés, des objets tels que des fouets ou des passeports en peau humaine. Bon nombre d'entre nous ne purent alors retenir leurs larmes. Ce fut aussi l'occasion de mieux connaître l'histoire de Cracovie et de ses cicatrices invisibles, au contact de la guide Eva Fleschinskaya.
Avant la guerre, c'était la ville où un quart d'habitants, c'était les Juifs. Malheureusement, de cette grande communauté qui comptait avant 1939, 65 000 Juifs, aujourd'hui, il en reste moins qu'un mille. Parce que pour les Juifs de Pologne, c'est plus que 90% de Juifs qui ont été exterminés. Alors, cette extermination des Juifs a commencé ici encore au début de l'année 39, quand l'occupation nazie a commencé, car la ville a été choisie comme la capitale du gouvernement général. Donc, les persécutions des Juifs commencent à cette époque, c'est-à-dire depuis l'automne 1939, quand ils n'ont plus le droit d'y habiter, et ils sont expulsés de la ville, et depuis mars 1941, ils sont enfermés dans le ghetto de Cracovie. Ce ghetto va durer 2 ans, jusqu'à mars 1943, quand il sera liquidé et les survivants encore du ghetto vont être sélectionnés. Les uns vont aller encore travailler au camp de Poichov, le camp de travail forcé à côté des carrières où le travail était extrêmement dur, et les autres vont aller à la mort à Auschwitz. Et c'est la fin de la communauté juive de Cracovie. Alors aujourd'hui, après l'année 1989, la vie juive se renouvelle petit à petit. Mais c'est un processus très lent, mais on espère que avec le temps, voilà, cette vie juive va se renouveler, mais ça ne va être jamais ce qu'on avait ici avant la guerre, quand 10% de la population de la Pologne, c'était les Juifs.
Et puis il y aura Prague, en République tchèque, son vieux et exigu cimetière juif, et ses 12 000 tombes collées les unes aux autres. Nuremberg, sur les lieux mêmes où tout a commencé, et tout s'est achevé. De son congrès en 1933 au procès en 1945. Le centre de documentation sur le nazisme où nous avons encore appris. À notre tour à présent de transmettre et de raconter à nos enfants cette histoire. La préserver des outrages de ceux qui entretiennent la haine dans la rue ou les réseaux sociaux, tranquillement, anonymes derrière leurs écrans, et qu'évoquent celle qui porte encore tatoué sur son bras le numéro de matricule 78599.
Moi, j'ai pas internet, je ne vois rien. Mais par contre, les gens me disent, ils se disent des choses tellement affreuses sur le racisme et sur l'antisémitisme que ça fait peur.
Les mots, plus forts et surtout plus vrais que les images à la télévision ou sur nos ordinateurs, celles perfides de la désinformation et de la manipulation, des complots. C'est le message qu'a voulu nous adresser le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lors de sa venue l'an passé à Mont-de-Marsan.
Il y a de grands dangers dans cette nouvelle société dans laquelle nous sommes et l'addiction aux écrans en fait partie. Et nous devons être attentifs à ce que nos enfants et nos adolescents vivent dans le goût de la relation humaine avec les autres. Je crois que c'est un point décisif, surtout pour une société française, et on le sait bien dans les Landes, qui a des siècles d'humanisme, des siècles de goût pour la culture, de goût pour la relation à l'autre. Nous ne devons pas perdre ça avec la société des écrans.
La vérité de l'histoire est probablement à aller chercher ailleurs, dans les livres, les classiques du journal d'Anne Frank à La Nuit, en passant par les récents, L'Ordre du Jour et La Disparition de Joseph Mengele, les prix Goncourt et Renaudot 2017, soit autant de remparts contre l'oubli. En ce qui nous concerne, nous mesurons ainsi la chance de ne pas avoir vécu à cette période, mais d'avoir pu effectuer ce voyage qui nous aura fait grandir. Tout le monde n'a pas eu cette opportunité, même parmi les élèves d'hier devenus aujourd'hui nos grands dirigeants. Comme d'ailleurs, ont-ils vécu à notre âge l'enseignement de l'histoire ? Nous avons demandé à la secrétaire d'État aux armées Geneviève Darrieussecq de replonger pour nous dans son passé d'adolescente.
J'en ai peu de souvenirs.
J'en ai des souvenirs au niveau du lycée, de la fin de mes études, parce qu'on en parlait en histoire, en fait. Et ensuite, j'ai le souvenir quand même des commémorations au Monument aux Morts, où nous allions, y compris en classe, dans les petites classes. Donc il y a quand même le 8 mai, il y avait le 8 mai, le 11 novembre. Bon. Il n'y avait pas autant de dates que maintenant, mais il y avait quand même deux, trois dates qui étaient importantes. Donc c'est vrai que ce sont des marqueurs forts. Mais mes enfants, par exemple, ont eu un professeur qui travaillait sur le concours national de la résistance. Et mes enfants, certains de mes enfants y ont participé. Et ça marque un jeune. Parce qu'il participe à un projet autour de ces périodes-là, de façon, avec un engagement personnel à participer à ce projet. Donc c'est ça qu'il faut continuer de développer.
L'histoire est malheureusement en éternel le recommencement. Enfin, on souhaite qu'elle ne se répète pas. Il y a une montée des populismes en Europe. Oui. C'est le rempart contre ça, c'est rappeler incessamment cette histoire.
Sans arrêt. Nous sommes dans des montées populistes, qu'elles soient de gauche ou de droite, y compris dans notre pays. Et je crois qu'il faut sans arrêt, il faut être de plus en plus vigilant. Il faut appeler de plus en plus à l'unité. Il faut rappeler nos valeurs. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et même dans des périodes qu'ont voulu troubler certains, comme actuellement, je crois qu'ils ne rendent pas service à la nation, parce que nous avons vraiment des sujets graves à nos portes. Et il faut que nous ayons un apaisement sociétal en France pour pouvoir ensemble faire face à ces sujets graves.
Pour nous, en tout cas, nous savons après ce retour vers le passé qu'il restera toujours un phare pour nous éclairer dans le futur, pour nous rappeler que peu importe nos âges, nos religions, nos couleurs de peau, nos opinions politiques, que la diversité est une richesse. Et cette lumière, c'est celle de Ginette Kulinka.
Je suis là pour faire réfléchir aux jeunes où mène la haine. Il faut qu'ils se rappellent que si Hitler a été comme ça, c'est parce qu'il haïssait les Juifs. Et la haine peut entraîner tout un monde à faire des choses impossibles. Je voudrais que personne n'oublie ce qui s'est passé. Que personne n'oublie ce qu'un être humain, que des êtres humains ont pu faire à d'autres êtres humains uniquement parce qu'ils sont, pas parce qu'ils ont fait. Et ce que j'aimerais que tous ces chefs qui poussent les gens à tuer, ce qu'on les mette entre eux, puis qu'ils s'entretuent entre eux, et qui ne transforment pas les êtres humains en tueurs.